Les controverses du village, épisode numéro 12, deuxième partie. Nous sommes toujours là avec Émilie Flamand.
Bonjour.
Dominique Montet.
Bonjour.
Et je suis toujours Sylvain Le Postin qui on fait toujours le débrief de nos devoirs de vacances. Love is life, it's in my love. Je t'avais confié une mini-série de Russell T. Davis, scénariste que je tiendrai, selon certaines rumeurs, en haute estime, qui a été diffusée en 2003, c'est ça, sur ITV, donc le TF1, la chaîne privée britannique, ce qui est peut-être le plus surprenant,
oui.
Réalisé par Adrian Shergold et produit par Red, qui est une immense boîte de production britannique, et Nicolas Schindler, avec qui Russell T. Davis a beaucoup travaillé. C'est un truc qui a été un vrai choc quand je l'ai vu. Voilà.
C'est un choc. Hein. Donc déjà pour résumer, en gros, c'est Russell T. Davis, donc on l'a dit aux commandes. C'est Christopher Eccleston en acteur principal et c'est
Sharp.
Voilà, c'est Sharp qui fait donc l'actrice principale. Donc en global, voilà l'idée et le plot, c'est qu'en fait Christopher Eccleston est ben le fils de Dieu revenu pour la seconde fois sur terre et que ben il, voilà c'est le Messie et il leur apporte la bonne parole quoi. Voilà, donc pour résumer,
non, il apporte pas la bonne parole.
Non, il vient les mettre au défi, il leur demande le troisième testament et sinon ce sera le jugement dernier.
Voilà.
Ouais. Bon,
tu vends vachement bien le truc hein.
Comment te dire? Si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que d'un point de vue déjà purement personnel, l'aspect quand même très porté, certes, pour avoir un regard plus ou moins critique sur la religion, d'accord.
Plus ou moins.
Oui, mais c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de références à la religion, c'est tout le temps sur le sujet. Enfin, moi, j'ai saturé, mais dès le début. C'est-à-dire que le premier, j'ai eu bien du mal à le finir. Je pense que j'ai décroché à beaucoup de moments en faisant autre chose parce que j'avais juste envie d'éteindre la télé. Et le deuxième, il a fallu que je me motive pour le regarder. Donc si tu veux, je dis à cet état d'esprit là d'un côté, et en plus j'ai trouvé en gros dans The Second Coming tout ce qui m'a saoulé dans Torchwood saison 4. Pas tout, bon d'accord, j'exagère parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont saoulé dans Torchwood saison 4, c'est pour ça que je tarde un peu à écrire la critique tellement il y en a, mais en gros j'ai tout ce qui, un des points de Davis qui m'a saoulé dans Torchwood saison 4, je l'ai retrouvé dans Second Coming. Je m'explique sur ce point surtout.
Parce que je vois vraiment pas le rapport.
Non, en fait,
je déteste Torchwood saison 4,
oui,
mais Second Coming.
En fait, c'est le côté Davis. J'amène une idée, un plot, qui en gros a un impact mondial. Un truc de psychopathe. Un truc qui change la face du monde. Un truc qui peut avoir des répercussions à 300 000 niveaux. Un effet cascade de bourrin. Et je fais le focus sur un truc en laissant les trois quarts des problématiques potentielles que je lance mais que je laisse tomber tout de suite pendant tout le long du truc, de la série, et j'utilise les pseudo-JT, comme il le fait tout le temps aussi dans Docteur Who, certes, c'est la marque de fabrique, mais bon, au bout d'un moment, les images de JT, c'est 2 fois 90 minutes, et j'ai l'impression qu'il y a à peu près 20 minutes qui sont des JT.
Pour vous dire, déjà, c'est 2 fois 70 minutes, en fait.
Pour te dire à quel point j'ai galéré à le regarder. Franchement, j'aurais presque pu te dire 120 minutes, parce que... Mais bon, globalement, si tu veux, moi, c'est déjà ce point-là m'a, on va dire, hors contexte sur la... Ça m'a un peu frustré. Déjà, il y a eu ce côté-là frustrant pour moi. Parce que tu lances des pistes, tu te dis, merde, tu es là sur...
Mais genre quoi, enfin, je vois pas d'exemple de piste lancée qui serait pas suivie, quoi.
On est sur le fils de Dieu qui demande l'écriture du troisième testament. Et en gros, à part les JT, tu restes focalisé sur ce bâtiment gardé par la police.
Bah, tu restes focalisé sur ton personnage, le fils de Dieu, il va pas derrière l'épaule des
gens. Mais il reçoit, soi-disant...
Mais il reçoit.
Hein. Ouais, mais tu vois, il reçoit, il y a une pile de 15 pauvres testaments, quoi. Il y a 15 pauvres trucs.
T'exagères, à un moment donné, il y a un plan dans un hangar, il y en a partout, il y en a des milliers de
ouais, et après, testaments. C'est pareil, en deux jours. Enfin, tu vois,
ça dure pas deux jours, ça dure assez longtemps.
Je suis pas... je suis vraiment... Je suis peut-être très mauvaise foi, hein, mais j'ai vraiment trouvé que tu vois pas l'impact. Et les autres religions, par exemple. Comment réagissent les autres religions? Parce qu'en gros, il se dit à un moment dans son discours, je crois que c'est pendant son discours, qui est à la fin du premier, où il parle que justement chacun a des dieux, mais qu'en fait tout le but c'est la foi, etc. Que tout le monde. Enfin, c'est hyper.
Mais c'est un peu. C'est là que c'est. Enfin, la plupart des religions monothéistes du monde, enfin les trois principales, sont la même religion. Les juifs, les musulmans et les catholiques, et les chrétiens, pardon, vénèrent le même dieu, pas d'accord sur qui est leur fils.
Oui, mais au final, dans l'appréciation, enfin dans l'image qu'il en rend, il fait complètement abstraction. Jamais t'as un juif ou un musulman dans l'histoire.
Son focus, c'est l'histoire d'un couple, en fait. Et donc, on suit ces personnages-là, et après, il se passe plein de choses dans le monde, mais ces personnages-là sont pas impliqués dans ce qui se passe. C'est là qu'il y a pour moi une différence fondamentale avec Torchwood, c'est-à-dire que dans Torchwood Miracle Dead, les personnages, ils enquêtent.
On est d'accord, c'est quand même pas au même niveau que Torchwood Season 4.
Ils cherchent à savoir, donc tout ce qui doit se passer dans le monde, on devrait le savoir parce que ça les intéresse eux. Que là, on est avec des personnages qui sont pas concernés par ce qui se passe ou par que la répercussion finale, il a demandé un nouveau testament, il attend au bureau de poste que les nouveaux testaments arrivent. Quoi.
Ouais, mais on a pas, en même temps...
Je ressens pas le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs pendant que les autres... tout simplement, le fait qu'il arrive et qu'il dise « Bon, les gars, je suis le fils de Dieu, je suis déjà venu, je suis de retour », enfin, ça règle la question de savoir qui avait raison, qui avait tort sur le fils de Dieu. Alors après, on imagine bien que les juifs ou les musulmans, ils le prennent plus ou moins bien, etc. Mais c'est pas le sujet, quoi. Enfin,
ouais, mais t'as quand même derrière donc une notion de panorama, donc avec ces JT, t'as quand même une prise de...
C'est simplement parce que c'est eux qui voient du monde, le JT aussi.
T'as derrière le... Pas une politisation non plus, mais t'as une décision qui est prise, que... Ok, donc il va passer à la télé, ils font des interventions, ils s'adressent à la population, il y a cette protection. Donc tu as des choses qui se mettent en place officiellement autour de ça. De la même façon, ça reste hyper local à ce niveau-là. Et tu vois, pour moi, tout ça, c'est à la fois c'est énorme, et en effet, il y a ce focus sur le couple, je suis d'accord, mais tu mets on prend une énorme machine, tu commences à mettre des bribes, mais en même temps, tu as l'impression que, ouais, mais les gars, on a que 2 fois 4, 70 minutes. Et on a pris un budget de ouf, donc on va quand même rester là où on en est. Moi, j'ai un peu cette sensation.
Je suis sûr que lui donnait 10 fois le budget, il faisait la même chose. Hein, c'est vraiment pas...
Ouais, mais c'est un peu le truc qui m'a saoulé sur Davis, je lui ai dit, même sur le temps de choses aussi. Donc, alors que là, par contre, t'avais 10 épisodes, putain, t'avais eu le temps de faire des trucs intéressants, mais bon.
Tu lui reproches de pas avoir été assez ambitieux, en fait, ou...
Je lui reproche d'être devant le cul entre deux chaises. Je lui reproche de lancer des trucs et de pas aller au bout. D'accord. Ou de lancer une piste, de dire qu'il va exploiter quelque chose un peu plus large, et en même temps, tu en as 10 milliards d'autres potentiels, si à ce moment-là, il s'engage là-dedans, il faut qu'il en exploite un peu plus.
Moi, au bout du compte, c'est vraiment ce que j'aime, en fait, dans ces Second Coming. C'est-à-dire que le pitch, c'est donc le fils de Dieu de retour, et l'histoire de ces Second Coming, c'est pas est-ce que le fils de Dieu est de retour ou pas, est-ce que c'est vraiment le fils de Dieu, etc. Non, c'est le fils de Dieu est de retour, au bout de 25 minutes de film, il fait un miracle, et du coup... on règle la question, on débat plus tard, c'est le fils de Dieu, c'est le fils de Dieu, il est de retour, c'est mon postulat de départ, point. Donc déjà, c'est pour ça que les débats sur les autres religions, c'est hors du champ, quoi. L'intérêt, c'est que ce soit le fils de Dieu...
Mais tu vois, ça, je trouve que tu le ressens dans le second épisode, mais pas dans le premier. Le premier, je vais pas dire que j'ai moins de... Enfin, le second, je l'ai regardé, j'ai été plus captivé par le second, j'ai trouvé en plus beaucoup plus intéressant sur les persos, que le premier, où justement... justement pour moi ça restait assez flou cette dimension, tandis qu'en effet dans le second tu as ce vase clos sur ces quelques personnages qui sont ensemble là, et ça va beaucoup plus vite sur les réactions humaines, sur celle du père qui se fait manipuler, sur parce que tu as la notion démoniaque aussi qui revient avant, enfin qui est déjà dans la saison, dans le premier épisode, mais le second est plus rythmé et justement on est un peu moins dans tous les sens, je trouve. Mais et clairement la notion sur ce couple et la scène du repas à la fin, elle est hallucinante. Je suis d'accord.
C'est une scène géniale. La conclusion est un truc.
Elle est hyper violente.
Un truc très fort que j'ai jamais vu à la télé. C'est la scène la plus violente que j'ai jamais vue à la télé. Et c'est deux C'est un mec et une femme dans une cuisine autour d'une table en train de manger des pâtes. Hein. Mais c'est le truc le plus violent que j'ai vu à la télé.
Ah, est-ce qu'ils étaient à la carbonara, c'est peut-être ça.
Non, c'était lasagne.
Ah non.
Des lasagnes.
Mais mais elle dit des pâtes quand elle dans le dialogue. Donc,
mais pour finir, ce que je commençais tout à l'heure, c'est que donc c'est ce pitch rocambolesque, absurde ou tout ce que vous voulez sur le retour du fils de Dieu, mais qui se fait dans un film de Ken Loach. Donc c'est la société anglaise dans ce cas-là de plus réaliste, filmée à la caméra à l'épaule comme un docu avec du grain, tu vois là, t'as l'impression qu'il neige tout le temps quoi. C'est vraiment, l'image est dégueulasse, mais c'est ouais. Vraiment voulu quoi, avec un style documentaire qui est moi, je ne comprends pas comment ça a pu marcher sur ITV.
Ah,
quoi.
Ça a été un succès d'audience.
Ça a été un succès, ouais. Ça n'a pas été un triomphe, mais ça a été un succès. Et ça, je veux dire, ce que ça dit sur la différence culturelle du public en France et en Angleterre est renversant, quoi.
Ouais.
Mais je veux dire, TF1 passe ça demain, mais ça fait 4 téléspectateurs, quoi. Ils font 2% de part de marché.
Mais tout le monde s'en fout. Ils diffusent pas le deuxième, mais surtout après le premier, faut dire.
Ils diffusent jamais le deuxième. Enfin,
c'est
c'est là que tu prends conscience de la différence. C'est toi qui as vu cette expression une fois que j'adore, de terreau créatif. Quoi. Que le terreau créatif est britannique est complètement différent et qu'on a un retard à rattraper, mais qui est juste gigantesque quoi, en termes de culture du public, tout simplement.
C'est ce que j'avais entendu dans une rencontre. En fait, la télévision britannique part du principe que le but, c'est de mettre à l'écran quelque chose que le téléspectateur ne serait pas allé voir de lui-même. En France, c'est l'inverse.
Ouais, clairement. Et voilà, et du coup on suit ce retour du fils de Dieu dans un style documentaire et intimiste et en s'interrogeant en fait sur les répercussions entre ces deux personnages là, sachant qu'en fait le fils de Dieu, Christopher Eccleston, c'est un mec qui a la trentaine, qui travaille dans un vidéoclub,
qui est vierge,
qui a foiré sa vie dans les grandes largeurs quoi, il a juste rien fait de sa vie, et il a sa meilleure copine qui est Leslie Sharp et qui est célibataire. Et
il l'embrasse, genre premier baiser, 5 minutes avant de disparaître. Quoi.
Et en fait, ils s'embrassent au début, dans la première scène, mais parce qu'ils sont tous les deux bourrés. Quoi. Et c'est vraiment le truc le plus misérable du monde. Et j'ai peur de trop en dire, mais c'est dans cette scène finale où il y a tout un tas d'enjeux qui s'entrechoquent, la religion et leur relation intime, elle lui explique... Il lui demande pourquoi, il lui demande à Leslie Sharp, je sais plus comment s'appelle le personnage, pourquoi ils ont jamais été ensemble finalement, alors que, enfin, ils sont meilleurs amis, enfin, je veux dire, tout le monde autour d'eux, et sa réponse est à la fois d'une lucidité et d'une cruauté terrible. Enfin, elle lui dit, en fait, j'espérais toujours trouver mieux que toi, quoi.
D'accord.
Globalement, cette scène-là, Imane, il fait très très bien, et parce qu'elle est en effet très lucide, surtout même sur. Justement, ce qui s'est passé dans la série, sur cette notion, etc. Donc, cette scène-là est géniale. Après, moi, en même temps, tu vois, sur le duo, sur le couple, moi, le personnage d'Eccleston, j'arrive pas. Alors, j'ai un problème avec Eccleston, je le sais. En plus, donc, si tu veux, il y avait religion, il y avait le côté. Eccleston, tu commences à accumuler, franchement. Et bon, la nénette, elle est très bien dans Midnight, mais clairement, c'est pareil, c'est pas forcément quelqu'un qui va choper mon empathie tout de suite.
Ah ouais,
mais alors, Eccleston, son personnage, ok, il le joue très bien. Il le joue très bien. Mais même le personnage en lui-même, déjà, j'arrive... À aucun moment, j'ai créé une empathie avec lui. À aucun moment. De un, parce que peut-être l'acteur déjà me bloque un peu, mais je raffolais déjà pas dans Doctor Who. Clairement, c'est la première saison, elle est moins attrayante que les autres. Mais en plus, j'arrive pas à créer une empathie, comme tu dis. Ce mec a tout, est un paumé. On te le place au départ comme un gros paumé. Dis, t'as une coupure, on te dit ça se passe tant de temps après, et hop, je suis le fils de Dieu, et je reviens à la tête pour sortir une deuxième fois, et j'ai un sourire qui est toujours jusque-là. Ah, il se passe des trucs, il est comme ça tout le long. Et la bonne parole, et tu lui poses une question, etc., quand t'as ces apôtres, entre guillemets, ces potes-là qui sont autour. Et qui s'interroge aussi sur tout ça, qui commence à questionner, qui essaie d'en savoir, de comprendre, etc. Il a toujours ce grand sourire béat, quasiment. Et en gros, ses réponses sont soit...
Mais le sourire est intéressant, puisqu'il est d'une cruauté infâme, lui aussi.
Il n'est pas cruel. Moi, je ne l'ai pas trouvé cruel, son sourire.
Mais non, son sourire n'est pas cruel, mais son sourire est intéressant parce qu'il est en contraste avec ses réponses qui sont cruelles. Avec, je veux un miracle, il y a quel miracle il pourrait faire pour leur prouver qu'il est le fils de Dieu, et un de ses amis lui dit mets fin à la fin dans le monde, Et Eccleston, enfin Dieu, enfin Jésus répond, mais c'est pas un miracle mettre fin à la fin dans le monde demain, si vous voulez, vous y a de quoi nourrir tout le monde, êtes capable de le faire. Pourquoi me le demander à moi, c'est pas un miracle ça. Un miracle, c'est un truc extraordinaire que vous pouvez pas faire. Mettre la fin dans le monde, c'est juste que vous avez pas envie, que ça vous arrange que les gens crèvent de faim. Ok.
Non, mais c'est vrai. T'as des choses comme ça qui sont intéressantes, mais les moments où il répond que lui-même ne sait pas, etc., ou qu'elle le pousse du coup à essayer de voir l'avenir, en gros, et ce genre de choses, il y a quelques séquences où donc surtout la fin où c'est plus dans l'émotion, mais sinon, moi j'ai juste envie de le secouer, quoi.
C'est incroyable parce qu'on a l'impression que vous avez pas vu le même truc.
Mais après, je pense qu'il y a aussi. Le bagage de chacun, clairement, sur le sujet.
Oui, bien sûr.
Mais l'appréciation de Sullivan sur Russell T. Davies, peut-être pas pour la mienne. Et après, oui, moi, je l'ai vu aussi dans le contexte, où j'avais l'impression de retrouver des choses qui m'avaient beaucoup énervé sur autre chose que j'avais eu très peu de temps avant. Lui, il n'a pas du tout projeté la même chose dessus. Et après, il y a l'attachement de chacun, donc de toute façon...
Et après, il faut quand même préciser ce qu'est le discours et le propos du truc. C'est-à-dire que ça parle de religion... Mais ça parle de l'absurdité de la religion, ça parle de la folie de la religion, et c'est une mini-série sur la religion qui dit que la religion abaisse les hommes, en fait.
Qui dit, en gros, prenez-vous en main, c'est votre chance de salut, votre chance pas de salut,
la religion nous rend pas meilleur, la religion nous rend pire, la religion nous donne des excuses, et la religion voilà, nous donne des excuses et nous encourage à accepter la fatalité, parce qu'après tout, c'est Dieu qui l'a voulu, quoi.
Tandis, et en gros, l'idée, voilà, c'est... demandez pas des miracles, c'est à vous de les faire, arrêtez de croire et bougez-vous le cul.
Et ce qui est marrant, c'est que tu dis que tout l'aspect religieux, c'est ça qui t'a pris à rebrousse-poil et malgré
tout... Mais dès le départ, si tu veux.
Bah oui, mais malgré tout, t'es capable de dire que le propos du film, c'est l'inverse.
Oui, mais c'est sur la fin. Moi, je l'ai senti surtout sur la fin.
Tu l'as senti sur la fin, d'accord.
Le premier, je le sens pas du tout, quasiment. T'as quelques répliques, comme cette réplique dans le café, avec le coup de la fin dans le monde, mais ça, c'est la dernière scène, quoi. Juste après, il y a un truc et ça coupe, quoi. Ouais, et la première partie, tu la sens beaucoup moins.
C'est plus, tu le sens dans cette espèce d'humour bizarre à la Russell T. Davies, ce côté, l'absurdité de sa demande en fait. C'est ça qui est presque drôle. Il va voir les humains, il passe à la télé, il leur dit les gars, j'ai besoin que vous m'écriviez un troisième testament quoi. Et c'est juste débile comme demande. Enfin, et c'est complètement dans la lignée, dans la cohérence des textes religieux. Mais c'est débile. Quel humain va écrire un troisième testament, foutre quoi demain quand... Et du coup, il reçoit 3 milliards de troisième testament par la poste, il n'a même pas le temps de les lire.
Il sait que c'est pas cela.
Et c'est l'inadéquation totale entre la religion et le monde moderne, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la cohérence, comment est-ce que... Enfin, ça pose toutes ces questions, mais avec ce côté tongue-in-cheek, j'arrive pas à trouver de mots français, ce côté irrévérencieux et complètement... de pousser le truc jusqu'au bout de sa logique... pour que comprenne à quel point ça veut dire c'est n'importe quoi.
Oui, mais en même temps, il pousse le truc, d'accord, jusqu'au bout de la logique pour s'en moquer, mais il y joue tellement sur les codes, donc comme tu dis, en les utilisant tout le temps.
C'est intéressant parce qu'il joue très très peu, enfin, il joue sur aucune imagerie religieuse.
Non, pas l'imagerie, mais il utilise, comme tu dis, les testaments, il utilise la façon dont toutes les choses que tu pourrais t'attendre justement, de notion de miracle, de diable. Enfin, les côtés possédés aussi par Satan et qui essaie de manipuler, etc. Enfin, il y a un moment où... moi, c'est pareil. Hein, il joue très bien, je sais plus comment il s'appelle, ce gros qui fait vraiment gros dégueulasse, quoi. mais non, si, franchement, il fait vraiment vieux pervers, bizarre.
Philippe Naon encore, non.
Voilà, il en joue par moments, vraiment, t'as l'impression d'être dans Constantine, quoi.
Ouais, quand même.
Ouais, franchement, avec les yeux qui s'allument, etc., quoi, enfin, tu fais, ouais, vas-y, sur l'artillerie, quoi, et donc tu rentres dans ce code-là.
C'est le seul effet spéciaux des tout le truc, c'est le seul truc qui ancre
mais à la rigueur, il sert à rien, du coup.
Il sert le propos. Le mal et le diable n'existent que parce que la religion n'existe.
Mais oui, mais à ce moment-là,
autant... Et du coup, si tu réactives la religion...
Il n'a pas besoin de faire cet effet.
Avec la seconde venue... tu réactives.
Mais t'as pas besoin de faire cet effet. Parce que là, il y a les yeux, il y a les rires aussi. Puis le gros, tu te dis qu'il fait bien. Le problème, c'est que vous n'avez que les gnarques, etc. Vous n'avez pas les mimes qui vont avec. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je m'exprime beaucoup avec les mains et que là, je leur mime à chaque fois le gros en question. Mais voilà, globalement, si tu veux, c'est que t'as l'impression que sur ce personnage-là, il y en a 25 couches quand même. Entre les yeux, le rire, le bonhomme en lui-même, quoi, l'allure, le côté limite, je suis en train de baver quand je vois une gonzesse et j'ai la langue qui va faire.
T'as vu les descriptions du diable et des démons dans la Bible,
quoi. Oui, mais voilà, mais donc il retombe. Mais c'est 10 000 fois plus. Enfin, là, tu dis qu'en gros.
Mais il a pas les cordes, il a queue rouge et la fourche.
Qu'il est possédé. Là, il dit qu'il est possédé, en gros, par un démon, donc il peut pas en même temps lui sortir une queue, sinon c'est un peu repérable. Ouais, c'est vrai que quand on y est, il aurait pu. Mais bon, franchement, tu retombes quand même dans toute cette codification. Et la première partie, je l'ai trouvée très, très indigeste. La deuxième, elle est un peu moins, même s'il y a des passages qui m'ont vraiment aussi lourdé. Tout le truc où. T'as l'autre flic avec le père là et cette histoire où tu le vois qui donc influence le père. Enfin, le père. Ça aussi, il y a toute une histoire sur le père, biologique, machin, pas biologique. Hein. Et où il le fait boire et prendre ses cachets et ainsi de suite et qu'il le pousse et que l'autre va franchement, ça c'est pareil. Il y a un moment où tu te dis, bah, quitte à te dire ça, tu le touches, tu lui insuffles l'idée parce que de toute façon, dès le départ. Je suis désolée, le mec descend avec lui, il lui file une bouteille, il lui file des cachetons, le gars gobe tout. T'as l'impression d'un bébé à qui on vient de foutre un sein. Donc c'est tout, tu lui files un pistolet direct, tu cherches pas à tenir 20 minutes à dire qu'il va le pousser petit à petit à en arriver là. Mais non, il le fait durer. Ça n'a même plus de sens tellement il en a mis au début.
Je suis en train de me dire que ça doit être vachement pénible de le regarder avec vous deux à côté en fait. Ah, c'est génial cette scène. Mais t'es malade, c'est nullissime.
Bon, je crois qu'on ne nous mettra pas d'accord sur The Con Coming. Mais
sans
bon,
blague.
Ce débat nous voudra peut-être attiser votre curiosité. Ça n'a jamais été diffusé en France, évidemment.
Et ça ne le sera jamais.
Voilà. C'est disponible en DVD, en import en anglais. Je sais plus. Il y a sûrement des sous-titres anglais, mais il n'y a pas de sous-titres français, évidemment. Si jamais vous avez l'occasion, ça vaut vraiment. Enfin, ça vaut le coup.
Ou pas.
Mais non, mais même si ouais. Vous devez détester ça, c'est une œuvre singulière qui ressemble à rien de ce qu'on a vu autant. On revient, mais un vrai propos d'auteur, mais avec bon, même si Emily a pas forcément trouvé, mais quelque chose de tenu et je veux dire, ça a conquis le grand public.
Enfin, au moins aller jusqu'à la scène du repas.
C'est la scène finale.
Non, il y en a une après.
Il y a un épilogue de 5 minutes après.
Ouais, voilà. Après, non, mais c'est ça. Après, c'est qu'il fait.
Ils ont tenu jusqu'à 5 minutes.
Mais c'est ça le truc en plus. Cette scène au final, elle casse tout. C'est comme la fin de la saison 4 du Docteur. T'as une scène d'une intensité hallucinante qui a une fin, une vraie fin, et il te fout un. Et 4 ans plus tard, en gros, et le petit truc tout pépère, tout gentillet, histoire de clore sur quelques babioles qui, limite, n'ont même pas forcément grand intérêt.
T'as pas le sens, ça a pas de sens la mini-série s'il n'y a pas l'épilogue.
Franchement, pour moi, elle a quasiment autant de sens. Parce que pour moi, tu finis sur ça, justement, tu laisses ouvert sur et après.
Ouais, enfin bon, on a fait longtemps et on
limite, laisse ouvert, quoi. Mais... T'as fait tout ça pendant 2 épisodes sur cette thématique, sur tu en arrives à cette conclusion qui se passe pendant ce dîner, tu le laisses là où c'est et tu le laisses ouvert, tu ne sais pas ce qui se passe après.
Sullivan garde juste une portion d'Emily qui dit rester jusqu'à la dernière scène. Voilà.
C'est ça. Ensuite, c'était Dominique, ce que tu m'avais proposé.
Alors, moi je t'ai proposé Stuart Life Backwards. Qui est un film de David Atwood, écrit par Alexander Masters d'après son livre, avec Benedict Cumberbatch, donc tout le monde connaît maintenant, enfin j'espère en tout cas, donc c'est un nouveau Sherlock, et Tom Hardy, que tout le monde doit forcément connaître, si vous avez vu Inception, si vous attendez Dark Knight, il est à peu près partout.
J'ai vu un film hollywoodien dans les 10 dernières années.
Warrior, enfin bon, il est partout.
Aussi dans Star Trek Nemesis, comme qu'on ne fait pas que des chefs-d'œuvre.
Et oui, il faut bien faire sa carrière. Donc,
c'est
un film que j'avais vu tout seul, comme un grand, donc au RITV, au Feu RITV, donc les rencontres internationales de télévision de Reims. Et c'est un film qui m'avait vraiment bouleversé. Mais vraiment, sincèrement bouleversé, où j'avais trouvé justement le propos à la fois intéressant et pas du tout larmoyant. Donc voilà.
La toute première chose que je me suis dit, quand j'ai commencé Stuart, Life Backwards, c'est « Ah, Nous avons donc devant nous un téléfilm qui date d'avant la révolution visuelle.
Ah, complètement.
De la télévision britannique. Donc c'est vraiment, mais c'est horriblement moche, quoi.
Ça commence bien.
Il y a aucune photographie, il y a aucune recherche visuelle. L'image, il y a aussi ce côté Ken Loach, quoi, ce naturalisme, machin. Donc il y a un grain infect partout.
C'est gris alors.
Tout est gris, tout est bavasse, il y a pas de couleur. Donc ok, c'est bon. allez. Les années 90, sauf que ça date de 2007-2008, donc c'est pas si vieux que ça.
2007.
Comme quoi, cette révolution visuelle,
elle a pas touché tout le monde au même moment.
Il y en a certains qui sont encore un peu.
Non, voilà, mais c'est d'autant plus frappant de voir à quel point ça s'est fait vite après.
David Attwood, pour la petite histoire, c'était à l'époque un réalisateur de 55 ans, donc ancienne école, voilà. Ceci explique cela.
Et donc voilà, et donc on suit ce gars qui est un écrivain, qui est joué par Benedict Cumberbatch. Et qui donc est amené à rencontrer parce qu'il a fait du bénévolat ou qu'il est en contact avec des associations. Il se retrouve, son destin percute celui de je sais plus comment s'appelle le personnage de Tom Hardy, il s'appelle Stuart, c'est l'autre qui s'appelle, il s'appelle Stuart, et il rencontre Stuart, il percute ce type qui est en gros un asocial, un SDF, et il décide de s'intéresser à ce gars.
On sait pas trop pourquoi.
Il y a quelque chose qui l'interpelle, et c'est vrai qu'il est interpellant.
Oui.
Et voilà, donc il se retrouve à vouloir s'intéresser à le gars, dire, mais je pourrais peut-être raconter son histoire. Et finalement, il se noue une espèce d'amitié étrange. Et puis, ils militent aussi ensemble. On va étudier pendant cette heure et demie cette espèce de relation étrange entre les deux. Voilà. Le téléfilm m'a... C'est intéressant, ça m'a pas conquis.
D'accord.
Mais voilà. Mais c'est intéressant. Je suis resté un poil en dehors, en fait.
D'accord.
Alors après, est-ce que si je l'avais vu dans les conditions d'une salle de ciné, est-ce que ça aurait pas été différent? Probablement. Pour le coup, c'est ce que je reproche souvent au téléfilm, c'est-à-dire que un téléfilm raté, c'est chiant. Et un bon téléfilm, c'est un film de cinéma qui passe à la télé. Et du coup, est-ce que ça a vraiment sa place à la télé, quoi?
D'un point de vue visuel, oui. Clairement, parce qu'il y a...
Ça pourrait pas passer sur un écran de cinéma, tellement c'est moche.
c'est passé sur un écran de cinéma, c'est là-dessus que je l'ai vu, c'est pas glorieux. Hein. Maintenant, oui, en effet, donc c'est une histoire que j'ai trouvée assez singulière, et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont l'histoire touche sans appuyer forcément dans le pathos, sans forcer le trait. C'est très, très, c'est très sensible, c'est par petites touches, c'est...
C'est vrai que du coup l'auteur va découvrir la vie de Stuart, quoi.
Oui.
Et c'est juste, c'est une vie horrible début jusqu'à la fin, il y a rien qui peut rattraper rien, et donc du coup ça pourrait être du kilomètre de pathos, de l'élite de guimauve et chialer dans les chaumières et tout, et c'est effectivement pas du tout ça. C'est délicat, c'est pudique,
c'est assez drôle par moments,
c'est presque plus un regard
une comédie
décalé, comique, oui, sur l'inadaptation totale de ce mec à la vie normale, et comment essayer de le ramener dans la vie normale, c'est amené à plein de choses qui vont être vraiment décalées et bizarres, et voilà, quoi. C'est Stuart qui fait la cuisine, c'est quelque chose, quoi.
Voilà, moi, la scène que j'adore, c'est la première fois où Stuart va chez donc le personnage de qui s'appelle Alex, d'ailleurs.
C'est ça, oui.
Vu que c'est de toute façon Alex. Une histoire autobiographique, c'est le scénariste de l'histoire écrit le livre Stuart Life Backwards, d'après des éléments réels. Stuart existe.
C'est ça.
Et a existé. Il l'invite, il se retrouve chez lui, et évidemment le type c'est un délinquant, il est atteint de dystrophie musculaire, et il accumule les trucs, ça pourrait être une catastrophe ce film, parce qu'il a de la dystrophie musculaire, il a des problèmes de délinquance, il a tout contre lui, et il se retrouve dans son salon, et il y a Alexander qui lui propose un thé, et il se barre dans sa cuisine, et d'un seul coup il a une révélation, il se dit: mais je suis en train de laisser un délinquant dans mon salon alors que je ne peux pas le surveiller. Et d'un seul coup, il se met à préparer son thé à une vitesse incroyable, tout en gardant un certain flegme, je trouve. Parce qu'il est très fort là-dedans, Bénédicte. Et il revient dans le salon et il voit qu'il a rien fait du tout. Stuart, il est resté assis tranquillement. Et là, d'un seul coup, il reprend une posture tout à fait droite. Et tiens, voilà ton thé. Je m'assois, puis je regarde à droite, je regarde à gauche. Est-ce qu'il m'a piqué un truc? Non, c'est bon, on peut continuer à discuter. Et c'est ça, en fait, ce film. C'est un sujet dramatique, mais avec des moments mais purement réjouissants. Quoi.
Ouais. Il y a plein de scènes comme ça, cocasses.
Oui.
Enfin, des moments, Stuart te met à faire la cuisine, donc évidemment, en étant SDF, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée de c'est quoi une alimentation normale, donc c'est de la viande graisseuse entre deux tranches de pain et 3 litres de ketchup. Et tiens, ça coule de partout et tout, c'est atroce. Ou quand ils partent en voiture faire une expédition pour il y a plein de choses comme ça. Benedict Cumberbatch est génial.
Oui.
On l'a vu dans Sherlock. C'est un acteur immense, c'est un acteur incroyable. C'est un acteur qui joue du bout du doigt de pied jusqu'à ses cheveux. C'est tout son corps joue. Et du coup, il participe aussi vachement à ce que ce soit pas du pathos, quoi. À ce qu'on soit dans une espèce d'empathie, mais sans jugement ou sans... Voilà, il porte vachement la dignité du film, en fait.
Oui, tout à fait.
Dans sa prestation, dans tout, quoi.
Ce qui est un rôle pas évident, parce que, justement, de l'autre côté, tu as Tom Hardy, qui, lui, par contre, joue un rôle à Oscar.
Voilà.
Donc,
Et moi, j'ai trouvé beaucoup de limites à la prestation de Tom Hardy, en fait.
D'accord.
C'est compliqué, il est bon, enfin,
oui.
Tu peux pas dire qu'il est mauvais. Et puis en plus sachant les circonstances, c'est-à-dire que le scénariste il a vécu cette histoire, etc. C'est compliqué de mettre en cause. Je trouve que le personnage tel qu'il est joué par Tom Hardy, je trouve qu'il est trop dans un sens, en fait. C'est-à-dire que je le trouve un peu caricatural dans son apathisme, dans
ah ouais.
Je trouve, enfin, ce mec à aucun moment, enfin oui, il y a des moments où il essaie de braquer je sais plus quoi, des magasins ils font 5 braquages à la suite parce qu'ils ont oublié
un
truc, quoi. À chaque fois, oh merde, ma copine m'a demandé de ramener des chips, bon, faut qu'on rebraque un autre magasin, quoi. Mais c'est limite ça, enfin c'est pas des chips, mais
c'est c'est ça le principe.
Et donc à chaque fois, en fait, t'as la scène où ils se garent et tout, ils vont braquer. Il y a Stuart et il y a un ami à lui qui l'entraîne un peu là-dedans, quoi. Et en gros, l'ami a déjà le temps d'avoir fait 3 tours de la boutique. Stuart, il a encore à défaire cette ceinture de sécurité. Et puis, je suis fou de la pointe, et genre, non. Ça m'a agacé, quoi.
D'accord.
Je trouve que c'est too much dans le sens où même quand t'es un peu machin et que t'es rendu un peu mou du genou, t'as des moments où tu comprends que tu dois t'agiter, je sais pas. Et du coup, j'ai trouvé que tout était un peu trop sur une corde.
Presque plus la direction du personnage que la...
Ouais, sûrement. J'aurais voulu avoir des moments de contraste dans ce personnage.
Bah, t'as des moments de pure violence chez Stuart, justement. Tu vois,
mais alors, presque, justement, c'est de la violence, quoi.
Ouais.
Mais du coup, enfin, je veux dire, puisqu'il est capable de ces moments de violence, dans un moment de stress, il devrait être capable de défaire sa zone de sécurité en moins de 2.
Ouais, mais tu peux partir du principe que, justement, c'est des moments où c'est plus vraiment lui, c'est un état second, donc ça transcende son
ouais.
fiction. Moi, j'ai été touché par le personnage. C'est peut-être pour ça que tu as eu l'impression de rester en dehors, c'est que t'as moins adhéré au personnage que moi. Moi, j'étais à fond, en fait, j'étais à fond dans... Alors après, est-ce que c'était parce que j'étais dans une salle de cinéma, est-ce que c'était parce que j'étais à un festival, où je trouvais que l'alchimie entre les deux fonctionnait vachement bien, j'en sais rien, mais pour moi, ça m'a vraiment touché, et vraiment, du moment où il explique la source de ses problèmes, qui n'est pas la source évidente, en fait, c'est très fin, bon, je ne le dis pas pour ceux qui ont envie et qui ont le courage d'essayer de le trouver... Mais c'est assez bouleversant jusqu'à la fin qui est vraiment une scène d'une émotion monstrueuse mais épurée au possible. Là, pour le coup, autant il y a des réalisateurs qui prennent un coton-tige imbibé de produits pour te faire chialer au maximum. Là, non. Justement, il y a une pudeur qui est incroyable dans cette dernière scène. Et je suis... Cœur de... toi, on va parler de McFadden.
Ah.
J'ai versé ma larmichette, hein, c'est obligé. Il y a une telle émotion là-dedans et en même temps, c'est... Ouais. C'est la pudeur.
Peut-être
la pudeur,
que c'est quoi. Un poil trop pudique pour m'atteindre, moi, quand même.
Ah ouais, ouais. D'accord.
Peut-être. Ouais, je pense
il
que...
Il a besoin d'un peu plus de passion. Non, mais ça revient un peu à ce qu'on disait sur
ouais,
la
ça.
Première partie sur les préjugés, quoi. C'est que
j'ai quand même besoin qu'à un moment on y aille un petit peu, tu vois.
Ouais, mais je sais pas, j'ai...
Et en même temps, c'est beau, enfin, oui. J'ai du respect pour ça. Mais du coup d'un point de vue un peu trop extérieur, je dis ah putain, qu'est-ce que c'est respectable cette volonté de pas nous faire chialer, quoi. Mais du coup, ouais, je...
Et tu vois, j'aurais trouvé ça froid si t'avais pas eu vraiment de réponse de la part du personnage de Benedict Cumberbatch, ouais. Alors que tu l'as la réponse, tu as vraiment quelque chose.
Je trouve pas ça froid, hein. C'est non. Je trouve ça beau, mais tellement pudique que je suis pas bouleversé.
D'accord.
Ouais. Mais ouais, après, c'est la fin. Du coup, je suis pas complètement rentré dans le personnage de Stuart. Du coup, voilà, enfin, il y a un.
Ouais.
Un truc.
Oui, tu connaissais son destin avant de. Tu t'étais renseigné?
Non, d'accord, ok. Je me suis pas renseigné. Du coup, voilà. Et encore une fois, je pense vraiment qu'il y a de grosses chances que si j'avais vu ce film dans d'autres conditions, j'aurais pu aussi réagir différemment, quoi. C'est compliqué, ce genre de trucs,
ce que tu disais sur les téléfilms, quoi.
T'es dans les sollicitations de la vie quotidienne, t'as un CMS qui arrive ou un truc machin, et pouf, et tu décroches un peu, et voilà, et c'est un truc qui est fait pour que tu sois un peu captif pendant une heure et demie, et c'est difficile à obtenir aujourd'hui. Voilà.
Trop d'écran.
Un peu, ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de vieux de la vieille qui écoutent notre podcast, mais qui doivent être désespérés en écoutant. Je suis désolé.
Lis des SMS en regardant quelque chose.
C'est ça.
Non, mais je suis.
C'est pour ça que j'aime la télé.
Je suis toujours sur plusieurs écrans en même temps.
Parce qu'on a vraiment des. Je pense pas qu'on ait des auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'un SMS, par exemple. Je pense que celle-là, c'est bon. Là.
Non,
s'ils savent télécharger non, sur.
C'était pas sur ça, c'était
sur. Qui ne regardent pas que la télé, qui par exemple ont l'ordi en même temps sur les genoux ou qui vont être en train de regarder sur leur portable Facebook.
Il y a encore des puristes qui doivent être capables de débrancher le téléphone avant de regarder un truc, tu vois.
Ou qui regardent les deux premiers épisodes de la saison 2 de Luther juste en regardant 2-3 portions comme ça.
Moi je suis labourin. Moi je suis labourin là-dedans.
Allez, on.
Mais c'est pour ça que je me prononçais pas sur la saison 2. Je les ai pas vus entiers. Moi je ne dis rien quand j'ai pas tout vu. Je ne te mets pas en cause. C'est pas toi du tout.
C'était juste en passant. On continue. On était très très vintage British 90.
Ah, moi j'avais relancé que des vieux trucs.
Et donc voilà, avec ce que t'avais proposé à Dominique de regarder, parle-nous-en un peu.
Donc Warriors, alors par contre moi j'ai pas mes petites fiches comme Sullivan.
C'est réalisé par Peter Kominski sur un scénario de Leigh Jackson, ça date de 1999,
voilà.
C'est passé sur la BBC.
Alors Warriors, en gros c'est quelque chose, c'est une mini-série de 2 fois 90 minutes si je me trompe pas.
C'est cela.
Cette fois. Qui en gros parle alors j'ai que le nom anglais qui vient des
Peacekeepers. Les casques bleus.
Les casques bleus, merci. Qui sont donc en Bosnie. Alors le conflit, je sais plus exactement les dates.
Moi, ouais, la guerre de Yougoslavie.
Oui, mais c'était 92.
92, ouais, dans ces eaux-là, ouais.
Voilà,
ouais.
Moi j'étais petite, donc je me rappelle vaguement à la télé.
Ça va, ouais.
Non, mais c'est parce que je trouve que c'est important pour après mon opinion dessus, en fait. C'est pour ça que je précise. Et donc, en fait, ça suit des soldats britanniques qui sont donc engagés dans les casques bleus. Et ça les suit un peu avant qu'ils ne partent, pendant qu'ils sont sur place et à leur retour de mission. Et en gros, le parti pris, c'est de montrer à quel point ils sont là-bas pour normalement avoir une mission et qu'en même temps, cette mission les empêche de réellement prendre parti, de réellement faire quelque chose pour ces populations qui sont dans... qui souffrent incroyablement. Et c'est toute cette opposition, on la retrouve dans le titre, en fait, d'ailleurs. Mais bon, je laisse Dom d'abord en parler.
Alors déjà, c'est joyeux à souhait.
Ah oui, ça c'est sûr
que
là...
Ma compagne m'a posé la question, mais tu regardes ça avant de te coucher, t'es malade. C'est
un énorme coup de poing.
Alors, le coup de poing, faut attendre pour le prendre.
Oui.
Très franchement, pendant la première heure et quart... je me suis dit, bon, ok, on s'emmerde un peu. On entame en effet sur la vie de ces jeunes hommes en Angleterre, hein, pas d'ailleurs à Londres, c'est en Angleterre.
Non, c'est...
Et après, on les retrouve pendant le conflit, et c'est un de ces sempiternels films, je vais appeler ça comme ça, pour cette partie-là, sur un aspect pas inintéressant, mais bon, pas mal rebattu, sur pendant les conflits, les soldats s'emmerdent. Donc c'est beaucoup d'emmerdement, en fait. Et forcément, ça transparaît.
C'est le côté très routine de leur quotidien.
Exactement.
Où, ils partent en mission, ils sont dans leur char, ils font des tours dans leur char.
Exactement.
Ils reviennent, ils mangent, ils appellent, ils repartent.
Moi, personnellement, sur le coup, ça ne m'a strictement pas touché. J'ai pas eu d'intérêt. J'avais de l'empathie pour les personnages, parce que le casting est bien senti, le personnage, par exemple, de Matthew McFadden, pour faire plaisir à Emily, est formidable, et qu'on est en empathie directe avec ce type. Il faut regarder la fiction jusqu'au bout pour comprendre l'intérêt de cette première partie et sa force. Si on ne regarde pas jusqu'au bout, elle n'a aucun sens, elle est chiante. Si elle n'est pas présente, le film est bancal. Donc c'est vraiment, là, c'est un mal nécessaire.
C'est du pur miroir, en fait, là-dessus.
Exactement. Mais c'est exactement ça. Ça va même au... Enfin, j'en parlerai après. Par contre, au terme de l'épisode 1, sur 2, on se prend un coup de poing dans le ventre et après, on est mal jusqu'à la fin. Donc, c'est pas un feel-good movie. Faut pas regarder ça pour se sentir mieux après.
Il y a des scènes qui sont vraiment très...
On a plutôt honte d'être un être humain
qui
à la fin.
Qui sont vraiment horribles. Franchement,
c'est sans pitié. C'est sans pitié.
Tu as la nausée qui monte sur certaines scènes.
Alors, pour la petite anecdote, ne vous fiez pas à la page IMDB française de Warriors qui se permet de dire que c'est un film sur la réinsertion des soldats au retour d'un conflit. Parce que dans ce cas-là, votre film, il dure un quart d'heure. Enfin, juste ça, c'est pour la petite...
Et dans ce cas-là, vous faites l'intro, en gros, du film, c'est tout.
Voilà. C'est bouleversant, c'est poignant, c'est dur. Esthétiquement, c'est assez remarquable. C'est franchement bien fait. C'est l'école Kosminski, c'est du faux documentaire, mais en même temps, tu restes dans la fiction, tu sais que tu es dans de la fiction. Elle est d'un tel réalisme que, je ne vais pas dire que c'est du quasi-documentaire, c'est pas vrai, c'est une fiction. Mais c'est très documenté et c'est très réaliste. Les acteurs sont formidables. Et alors moi, franchement, pour me faire apprécier quelque chose avec Johan Gruffudd dedans, faut y aller, parce que Johan Gruffudd, pour moi, il jouait dans les quatre Fantastiques.
Voilà.
Et c'est là qu'on se dit que oui, il a été casté pour une raison, par contre, on lui a rien donné à faire. Parce que dans Warriors, il est formidable. Ils sont tous formidables. C'est incroyable.
C'est l'ensemble des personnages est superbement écrit. Chacun a son passé, a vu quelque chose d'intense là-bas.
Pour expliquer,
on ne peut pas ne pas être en empathie avec tous ces personnages.
Pour expliquer, à la fin du premier épisode, il se retrouve à être obligé... en gros, il passe dans un village. Ils savent que le village va se faire décimer. Mais malgré tout, il faut qu'ils laissent la place parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir.
En gros, toute la mini-série, les deux épisodes sont sur le principe de ce non-sens qui est...
Oui.
Il y a une force qui est là-bas pour maintenir la paix. Enfin... pas pour maintenir la paix, pour en tout cas empêcher le massacre des populations,
pervers que ça, ils doivent en gros, ils doivent laisser faire le massacre, mais
ils n'ont pas le droit de prendre parti.
Alors, ce qui remet totalement en question l'existence même de ce groupe, c'est de dire, si tu ne prends pas un parti, tu ne peux pas défendre quelqu'un.
Ils sont là-bas, ils se retrouvent entre donc ces populations qui sont attaquées, massacrées à cause de leur ethnie, et ces soldats de l'armée donc qui les massacrent en face, sachant que ils ont le droit d'aller aider les blessés, etc., de les évacuer, mais que même quand il y a les soldats qui sont à côté avec le fusil à l'épaule près ou le canon qui est pointé, etc., ils n'ont pas le droit de faire sortir toute la population du coin, où le mec a décidé de prendre un gamin de 10 ans parce que c'est un prisonnier de guerre qui a essayé de s'enfuir. Ils ne peuvent pas intervenir. Et donc c'est sur toute cette frustration chez eux, dans un sens, parce que tu les vois au début avec cette routine où limite l'inconscience de ce qu'importe cette mission, le côté militaire, on va au front, on y va pour une raison avec cet objectif, etc. Là-bas, on leur donne cette mission, au début, il s'y confronte, mais sans la première véritable confrontation à cette incohérence, elle est violente. C'est elle la fin du violente. Premier épisode, déjà, elle est extrêmement
violente. Et c'est là où c'est intelligent, c'est que juste avant, tu n'as rien qui te prépare à ça. Même si historiquement, tu sais, quand ça arrive, t'es juste atterré parce qu'ils n'avaient même pas le droit de les laisser s'enfuir. On les laisse en pâture et on doit les laisser en pâture à eux. Et limite, ce qu'on peut faire, c'est arriver derrière et soigner des blessés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous voyez quelqu'un se faire tabasser dans la rue, vous n'intervenez pas, vous allez le voir juste après, mais vous saviez qu'avant, vous aviez les moyens de l'aider. C'est horrible. C'est une situation impossible.
Ils ont les moyens, ils ont le nombre, ils ont tout, mais ils n'ont pas le droit.
Ils ont la protection du bon, enfin du monde libre quelque part, parce qu'ils sont, ils sont dans leur bon droit. Ils pourraient. Eh ben non, il faut pas.
Il faut pas. Et le peu de fois où ils essayent quelque chose,
ça leur retombe dans la
gueule. Ça leur retombe dans la gueule directement par rapport à eux. Et tout compte fait, leur hiérarchie, enfin globalement le système, fait qu'ils se retrouvent dans une obligée de laisser pisser, tout compte fait de lâcher prise. Et c'est encore pire, enfin la scène Matthew McFadden en larmes là, elle est... Oh.
Alors le personnage de Matthew McFadden porte une grosse partie du film, même si Damian Lewis et Ewan Gruffudd sont tout aussi formidables. Mais j'en avais déjà parlé, Matthew McFadden porte ses émotions sur son visage, donc du coup c'est plus facile de se relayer avec lui, et en plus c'est un personnage qu'on suit quasiment dès le départ.
C'est un personnage qu'on suit dès le départ, et par rapport aux deux autres personnages, enfin ils sont trois principalement,
oui.
Donc il y a celui des quatre fantastiques comme tu disais, mais lui il a une histoire très intéressante aussi avec une bosniaque.
Avec une bosniaque locale en fait, qui est mariée et avec qui il a une relation quasiment...
Une relation platonique, mais voilà, enfin ils sont amoureux l'un de l'autre, mais c'est un amour qui n'est pas vécu, et il se passe quelque chose de dramatique aussi à ce niveau-là, mais bon, il y a ce personnage, mais ça arrive, limite c'est plus progressif sur lui, et ça arrive surtout dans le deuxième épisode.
Oui, tout à fait, oui.
Après, il y a l'autre personnage, le rouquin.
Ouais, qui lui entame une relation avec une traductrice,
voilà.
Qui a l'air un petit peu d'être le type cynique, pas détaché, mais bon, tu le sens un petit
peu. Voilà, il est un peu. C'est-à-dire que lui, il entame une relation avec une traductrice, sachant que sa nénette, il vient de l'abandonner au pays alors qu'il devait l'épouser et qu'elle est enceinte.
Voilà.
Donc, malgré tout, l'empathie à son niveau, c'est pareil. Il y a quand même quelques petites choses qui vont freiner le côté plein pot, quoi.
Oui, et puis malgré tout, le type vit des choses là-bas qui font que quand il rentre. T'es en empathie pure avec ce type qui est complètement, mais brisé. Il est brisé, il est fini.
C'est que ça.
Et d'ailleurs, c'est ça. C'est qu'en fait, quand ils reviennent de là-bas, et c'est ça, c'est la dernière partie du film. Bon, je spoile pas en disant ça, mais ces gens sont complètement brisés de A à Z. Et tu parlais d'effet miroir. Il y en a un qui est très parlant parce que qui paraît d'une futilité incroyable. C'est que dans les premières scènes, on voit Matthew McFadden sortir en boîte avec son meilleur pote qui va le suivre à la guerre. Et il se trouve appelé sur un podium, hein, et il commence à se foutre à poil. Et il se fout complètement à poil. Donc il a montré son pénis à tout le monde.
On ne le voit pas, hein, je précise.
Ça aurait fait plaisir à quelqu'un.
Non, quand même. C'est pas le but.
On rentre dans le conflit, on est bien installé dedans, ils ont vu des choses horribles. Matthew McFadden est passé par... Le personnage est passé par des choses, mais innommables. Et il se retrouve donc à faire la chose la pire possible, c'est qu'il va compter le nombre de cadavres dans un...
Bah, il se retrouve, en fait, remorque de camion, il y a un moment, voilà...
Il marche sur des gens,
On lui dit, vous pouvez les avoir, mais vous allez chercher... Si vous voulez les blesser, il y en a, mais ils sont tous là-dedans. Ils sont là-dedans, s'il en reste. Et en gros, il y a une remorque d'un semi-remorque,
voilà.
Où tu vois du sang, de la boue, qui découle, il grimpe dedans,
et il doit voir
et soulève les cadavres pour essayer de trouver un blessé, et il en trouve un.
Et sa réaction,
et c'est là, c'est cette
derrière, scène, il va voir un officier, je sais pas s'il est bosnien...
Oui, enfin, il va voir le camp de l'en face.
Il se met face à lui, et c'est le seul truc qu'il peut faire, il peut rien faire d'autre, il le confronte, il lui dit... Il questionne sur sa virilité, il lui dit t'es un homme, t'es content d'avoir fait ça.
Il baisse son froc.
Et il baisse son froc, et il lui montre son pénis en fait, vas-y sors-le. Et d'un seul coup, ça fait un effet miroir avec ce type complètement insouciant qui se dessape devant tout le monde sur un ton joyeux, et ce type qui a complètement changé, qui est plus rien et qui baisse son froc parce que juste il a envie de se confronter à cette ordure en face de lui, et il fait ça pour le rabaisser.
Il y a tout ce personnage là, je pense que c'est parce que disons que c'est celui qui est plus poussé, y compris dans l'épisode 1, parce que c'est lui qui se prend la première claque.
Ouais, et puis c'est ceux que tu suis depuis le départ.
Et voilà, et lui en plus, dès le début, t'as une forte empathie, parce que tu le vois, donc avec cette scène de boîte de nuit, tu vois l'anniversaire de sa petite sœur,
ouais.
Tu le vois aller à un match de foot avant, tu vois sa petite sœur qui est donc toute folle de joie, machin, à qui il offre un t-shirt de l'équipe. Alors, elle me dit, les équipes de foot, moi j'ai une catastrophe, mais en gros, un t-shirt de cette équipe de foot. Et tu le vois donc dans sa famille, tu le vois un frère attentif, aimant, qui aime bien se marrer. Tu le vois vraiment vivant et tu lui trouves pas de défaut à part, tu vois, être peut-être un peu justement bon vivant. Il a aucun défaut ce gars au départ. Mmh. Il part là-dedans et.
Et il continue à être jovial comme ça, parce que dès qu'il a l'occasion, il essaie de faire des conneries pour faire marrer les enfants quand il les croise.
Oui, il continue au début. Et après, il y a cette première claque, elle est terrible, parce que, en gros, cette première claque, c'est en rapport avec un gamin qui, en gros, prend sous son aile au moment justement d'un massacre et essaie de sauver, parce que ce gamin, il y projette l'image de sa sœur, parce que le gamin a le même t-shirt de foot,
ouais,
que celui qu'il a offert à sa sœur. Il projette tellement, tu vois, c'est un gamin du même genre d'âge qui a ce t-shirt. Il projette tellement tout ce qu'il a de sa sœur et de vouloir la protéger. Il se prend une baffe monumentale, forcément, après.
Et t'as une scène qui a se flinguer à la fin, où en fait, il retrouve la civilisation, il retrouve les gens. Tu pourrais te dire, bon, bah, ça y est, c'est fini. Mmh, mmh. Et il est totalement incapable de revivre comme il vivait avant.
Après, s'il a vu,
ouais. Et limite, c'est l'archétype du fou qui te croise dans la rue et qui te dit « Tu sais, moi, j'ai vu la guerre, j'ai vu des morts. » Et il est devenu comme ça. Et en même temps, si t'as pas ce background, tu comprends, tu te dis « C'est juste un fou. » Et quand tu le vois comme ça, pour tout dire, il se confronte à un enfant, il lui dit ça. Hors de son contexte, tu te dis « Mais quelle ordure, va-t'en, enfin. » Et à ce moment-là, t'es juste en larmes. Parce que, en effet, le type, ce qu'il a vécu, c'est tellement fort.
Il est foutu. Enfin, il est
complètement foutu. Mais ils sont tous. Enfin,
ils sont tous. Ils sont tous. Ils sont tous. Ils sont
toujours
tous,
feel good movie. À la fin, ils sont tous foutus, clairement.
Mais en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que, ok, au début, il y a donc cette première partie qui est nécessaire pour avoir le miroir de cette insouciance. Tu as cette mise en place de leur quotidien et de ce qu'ils vivent au début et de cette passivité dans un sens, parce qu'ils sont là-bas mais ils peuvent rien faire, qui va au fur et à mesure amener une frustration énorme et des claques énormes, et au point qu'en fait t'as l'impression qu'une fois qu'ils reviennent et qu'ils sont lâchés, qu'ils n'ont plus ces gens qui les empêchent d'agir contre ce genre de choses, ça explose, ils peuvent plus contenir, et la fin est d'une violence, enfin,
ah oui, non,
globalement
c'est
leur retour est c'est fracassant.
Dans le propos, dans les actions, c'est juste. C'est vraiment une fiction. C'est une fiction qui donne strictement aucun espoir à ce genre de mouvement. Bah, je vais pas dire que c'est déprimant, parce que c'est vraiment quelque chose à voir. C'est une œuvre parfaitement équilibrée. Et moi, je sais que si on m'avait pas poussé à la voir, je serais pas allé naturellement vers ça, parce que je suis pas un aficionado des histoires de militaires. Et je serais passé à côté de quelque chose de tellement poignant, de tellement fort, que sans le savoir, je m'en serais voulu. Quoi.
Mais cette série a eu pas mal de récompenses de mémoire.
Ouais, c'est légitime.
C'est totalement légitime. Mais vraiment, je pense que je ne pense pas qu'on puisse trouver des critiques négatives peut-être sur le sujet. Enfin, qui puisse se justifier, si tu veux. Parce que, bon, après, t'as toujours des gens qui
vont dire... Oui, c'est tellement ancré dans le réel,
Mais
on parle beaucoup de films nécessaires. Quand y en a certains qui arrivent sur les écrans, qui sont arrivés, je pense à Indigène ou des trucs comme ça, qui sont techniquement... Il y a beaucoup à redire, et en même temps, tu peux pas trop dire du mal, parce que c'est nécessaire pour parler de certaines choses. Là, c'est non seulement nécessaire, mais en plus, c'est bien fait, et ça te prend tellement aux tripes que... Ça souligne énormément le propos, et du coup, tu peux être que à 100% derrière le propos du film, parce que tu peux pas faire autrement.
T'en ressors retourné.
Oui, complètement.
T'en ressors complètement retourné. Émotionnellement, tu ne peux pas ne pas ressortir bouleversé de ce truc.
Si vous allez pas bien en ce moment, c'est peut-être pas le truc à regarder, mais si ça va bien, vous pouvez.
Oui, et non, parce qu'en même temps, t'en ressors bouleversé, et en même temps, à moins que tu sois militaire ou que tu sois femme ou homme, mari de militaire qui est parti en Afghanistan et qui revient et que tu flippes un bon coup. A priori, depuis ce genre d'événement, ils ont quand même commencé à mettre en place dans les armées des cycles de retour à la vie civile. pour justement essayer d'éviter ce genre de fin comme tu as dans le dans le la mini-série, mais c'est en gros oui, ça il faut surtout si vous êtes dans cette situation ne regardez pas.
Bon, et puis à peu près 10 ans après en fait
mais ils ont fait un
l'apporter Kosminski il a réalisé là l'année dernière une nouvelle mini-série qui elle part du conflit israélo-palestinien qui a été coproduite en fait entre Channel 4 et Canal+, qui passe sur Canal+ ce printemps. Non, c'est The Promise, le serment.
Ah oui.
Et qui je crois qu'il doit repasser sur Arte. Donc du même réalisateur qui fait voilà dont la réputation n'est plus à faire. Et ben on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour ces retours de vacances et cette nouvelle numéro des controverses. On vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, bonjour chez vous.